Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal avec Noël Alouzi Toukabambi.
Grève des agents du ministère des Affaires étrangères depuis le mercredi et réclame l'application totale du barème salarial ainsi que le paiement des arriérés de salaire des diplomates en poste. Le diabète tue s'il n'est pas soigné ou détecté à temps. Au moins 20 personnes sont mortes de cette maladie depuis le début de l'année à l'hôpital général de Bénio-Nord-Kivu. Dr Kassai Paloukou, médecin traitant et accompagnateur du club local des diabétiques, l'a dit hier à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Augustin Matata Ponyo est l'invité de ce journal. Il conteste les fonds, plus de 2,5 milliards accordés à la RDC par le FMI à travers deux programmes. Pour lui, ce programme viendra accroître davantage la dette publique de la RDC. Bonjour à tous. Les agents du ministère des Affaires étrangères sont en grève. Selon certains grévistes interrogés par Radio Kapi, ils réclament notamment l'application totale du barème salarial ainsi que le paiement des arriérés de salaire des diplomates en poste. Conséquence, depuis le mercredi de cette semaine, ils ont arrêté les activités jusqu'à ce qu'ils auront une réponse positive à leurs revendications, disent-ils. On écoute Anissé Moulenda, président de la délégation syndicale aux affaires étrangères. Il est dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati.
Nos sentiments sont des sentiments de tristesse parce que nous avons le ministre du budget qui devrait nous donner 28% de nos grilles barémiques au mois d'octobre et en état liquidatif. Malheureusement, à la paye du mois d'octobre, nous avons constaté que cela n'a pas été exécuté. Et cela a mis la colère dans les chefs des agents. Voilà pourquoi les agents ont décidé de déclencher une grève sèche. Nous insistons, nous appelons son excellence monsieur le ministre d'État, ministre du budget, à la conscience et à la responsabilité. Que le ministre d'État libère la paye des agents, que le ministre d'État libère la paye des diplomates en poste, que les T3 et les T4 soient passés avant décembre, que les diplomates touchent leurs émoluments pour qu'ils vivent en mieux avec leur famille, et qu'ici à la centrale, les deux ministres, le ministre du budget comme le ministre des Finances, qui libère aussi cette grille barémique. Et ici maintenant, nous reprenons à la case de départ. Nous ne parlons plus en termes de 28% parce que le ministre d'État, ministre du Budget, en a abusé de notre bonne foi. Alors, ici, nous réclamons la totalité de nos grilles barémiques.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la ministre des Affaires étrangères et de son collègue de budget n'ont pas abouti. Dans la province du Maniema, fin hier jeudi du processus d'actualisation du plan de développement provincial du Maniema, exercice 2024-2028. Avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ces travaux ont duré un mois. Après sa validation technique et politique lors du Conseil des ministres, ce document est remis au gouverneur de province pour sa mise en application. Le chef de l'exécutif provincial, Moussa Kabwankoubi Moïse, promet d'appliquer toutes les recommandations contenues dans ce plan de développement provincial afin d'améliorer les conditions de ses gouvernés. Suivant le chef de division du plan, Philemon Mwanya Mankoukou, au micro de Florence Kizalunga.
Il a été question de la cérémonie de clôture du processus d'actualisation de notre plan de développement provincial, le PDP, ainsi que de son plan d'action prioritaire de mise en œuvre. Nous avons atteint les résultats escomptés, c'est-à-dire valider les documents de développement provincial ainsi que de son plan d'action de mise en œuvre. Les documents ont été validés et il a été remis entre les mains de l'autorité provinciale pour sa mise en œuvre comme instrument par excellence de sa gouvernance en vue de l'aider à mener des actions pour réduire la pauvreté des fils et des filles du Maniema. Nous sommes des techniciens qui avons élaboré et en cette journée d'aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir remis officiellement à l'autorité provinciale cet instrument de gouvernance pour sa politique, ses stratégies, des politiques économiques et sociales, même sécuritaires de la province du Maniema. C'est à l'autorité d'en faire un bon usage pour produire les résultats escomptés, à savoir l'amélioration des conditions de vie de la population.
Et puis le programme de développement des 145 territoires n'a été exécuté jusque-là qu'à moins de 33%, alors que plus de 58% des fonds destinés à ce programme ont déjà été décaissés. C'est ce qui ressort de l'évaluation de PEDEL 145 territoires au cours du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Outre les questions orales avec débat adressées au vice-premier ministre du plan, Guylaine Nyembo, les députés ont aussi débattu mercredi sur les questions adressées au ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, et celui des Mines, Kizito Pakapomba. Avant de commencer le débat, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée en rapport avec son ministère. Michel Kifindangoy.
L'évaluation du programme de développement des 145 territoires a fait l'objet de trois questions orales avec débat adressées au ministre du Plan par les députés Patrick Mounyomo, Vincent Andoulou et Freddy Bonzeke au sujet des travaux d'exécution financière et physique de ce programme. Freddy Bonzeke.
Pouvez-vous indiquer les taux d'exécution du programme de développement des 145 territoires par province et par territoire? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ces jours inachevés? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds?
Dans sa réponse, le ministre du Plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58% contre un taux d'exécution physique de 32% sur tous les chantiers de la RDC. Guylaine Nyembo.
Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées. Sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés.
Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution des travaux du PEDEL, le 145 territoires, le ministre Guylaine Nyembo évoque la situation sécuritaire précaire et l'enclavement de certains territoires, ainsi que le vol des matériaux destinés à ces travaux.
Dans le Tanganyika, ce sont des experts de la Banque mondiale, du gouvernement congolais et du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs, PIKAGL, qui séjournent dans cette province pour évaluer les projets réalisés par le PIKAGL. Hier, ils ont visité plusieurs projets, dont le barrage des Versoirs dans le territoire de Kalemi. Cet ouvrage entre dans le cadre des travaux d'aménagement hydro-agricole pour rehausser le niveau d'eau afin d'irriguer près de 400 hectares des champs de riz des paysans. Paul Mounanga.
Le barrage des Versoirs est construit par le PIKAGL avec l'appui financier de la Banque mondiale. Il est situé sur le site Mamakasanga au village Tabakongo dans le groupement Kasangamutoa, territoire de Kalemi. D'après l'expert en génie civil à PIKAGL Tanganyika, le barrage a pour but de retenir de l'eau pour en faire une réserve et puis l'eau passe par plusieurs kilomètres de canaux qui sont construits en béton. Et enfin, cette eau desserve les champs des riz. L'importance de cet ouvrage est de permettre aux riziculteurs d'avoir de l'eau en permanence pour leurs champs, même pendant la saison sèche. Ingénieur Ismaël Kassai, expert en génie civil à PIKAGL.
C'est un ouvrage qui nous permet seulement à rehausser le niveau d'eau de façon à desservir les zones qui sont un peu situées plus haut que le niveau de la rivière en temps normal. Pendant la période de basse eau ou pendant la saison sèche, il y en a qui manquent de l'eau. Par contre, pendant la période de forte crue, il y a de l'eau en excès qui fait qu'ils sont chaque fois obligés à perdre leur culture. C'est comme ça nous amène un ouvrage qui les permet à réguler l'eau. Ça permet quand on a besoin de l'eau, on peut prendre de l'eau. Quand on n'en a pas besoin, on laisse l'eau couler dans son lit normal.
Signalons que le PIKAGL va mettre fin à ses activités dans la province du Tanganyika le 31 décembre prochain. Kalemi, Pole Mounanga, Radio Okapi.
C'est ce vendredi que se clôture la 33e session ordinaire du Conseil des ministres d'Africa Rice qui se tient à Antananarivo, Madagascar, depuis le mercredi. C'est le ministre Gilbert Kabanda de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui représente la RDC à ses travaux. Il porte sur la nécessité de respecter les engagements pris en faveur de l'autosuffisance en riz grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires basés sur le riz. Prennent part à ces travaux des représentants du Bénin, de Madagascar, pays hôte, de la RDC, du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso, du Libéria et de la Sierra Leone. Grâce à Mzati pour les
Lors détails. De la séance plénière de mercredi soir, le ministre congolais de la Recherche scientifique a affirmé que pour transformer les systèmes à base des riz en Afrique et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique, il est nécessaire d'appliquer une approche holistique et intégrée. Gilbert Kabanda Kourenga pense que cela implique des collaborations multisectorielles, des politiques adaptées, des investissements ciblés et une sensibilisation accrue. Il est convaincu qu'en agissant de manière concertée, il est possible d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires et d'assurer une nutrition adéquate pour les populations africaines. S'agissant de l'investissement dans la recherche et la technologie, Gilbert Kabanda a suggéré de développer des variétés de riz adaptées aux conditions climatiques changeantes telles que la sécheresse ou l'inondation. Il faut, ajoute-t-il, des nouvelles technologies innovantes telles que l'irrigation goutte à goutte et les techniques de culture de conservation. Pour atteindre ces objectifs, Gilbert Kabanda a insisté notamment sur la nécessité d'améliorer les infrastructures rurales par la construction des routes, des entrepôts et des systèmes de stockage qui facilitent l'accès au marché et minimiser les pertes après la récolte.
Au Nord Kivu, au moins 20 personnes sont mortes de diabète depuis le début de l'année à l'hôpital général de Beni. Ce chiffre a été révélé par Dr Kassai Paluku, médecin traitant et accompagnateur du club local des diabétiques à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète hier 14 novembre. Le retard dans le début du traitement ou la découverte tardive de la maladie figure parmi les principales causes de ces décès. Il exhorte tout un chacun à consulter régulièrement son médecin, y compris les personnes non diabétiques, pour connaître son état de santé. Docteur Kassai Paluku s'exprime au micro de Guylaine Kassassia.
Le diabète, en tout cas, c'est une maladie qui est en train de tuer beaucoup de gens. Surtout que la vie est devenue un peu difficile par manque de moyens. Et souvent, ils arrivent aussi à l'hôpital en retard. Ils arrivent quand ils sont déjà dans la phase des complications. Cette année, en tout cas pas moins de 20, on a déjà perdu. Au moins, chaque mort, on peut perdre deux ou trois. Le diabète en soi n'est pas tueur, mais quand il s'entre dans la phase des complications, on est exposé déjà à la mort. On peut le traiter, c'est une maladie chronique. Donc là, tu vas faire un traitement à long terme. On peut vivre avec, bon, on peut même atteindre 25 ans tout en ayant le diabète, ou même plus. Mais à condition que tu puisses te faire suivre comme il faut et respecter les régimes.
Santé encore, lutte contre le Mpox en RDC. Sur le terrain, la vaccination entre dans sa deuxième phase. Les 50 000 personnes vaccinées durant la première phase vont recevoir leur deuxième dose de vaccin et l'opération va s'étendre dans le pays. C'est ce qui ressort du briefing fait à la presse par le ministre de la Santé le mercredi à Kinshasa. Au total, la RDC a enregistré cette année plus de 40 000 cas de Mpox avec 1130 morts. On écoute le ministre Roger Kamba dans cet extrait choisi par Étienne Lissoumbou.
Le nombre de cas suspects, on a dépassé les 42 000 à la 45e semaine. Et nous avons dépassé le 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Ces virus-là, avec cette contamination sexuelle, a montré une différence et a augmenté beaucoup le nombre de cas. La différence c'est quoi? C'est que celui qu'on connaissait avant donnait presque rapidement des boutons généralisés et qui faisait que la contamination était limitée parce qu'on voyait le malade avec les boutons partout. Donc on avait un peu peur. Le 1B, lui, malheureusement, donner des signes beaucoup plus discrets, des boutons surtout au niveau de la zone sexuelle. Ce qui fait qu'on ne le voyait pas beaucoup et la contamination était beaucoup plus facile. La situation des vaccins, nous n'avons pas beaucoup, nous avons quand même un peu plus de 200 000 doses. Aujourd'hui, nous avons fini la première injection de la première phase, ce qui fait plus de 51 000 personnes qui sont vaccinées et nous commençons la deuxième phase. Ces personnes-là doivent avoir maintenant la deuxième dose.
En Ituri, plaidoyer en faveur de l'unique école primaire Balingina de la chefferie de Walese Vonkutu au sud du territoire d'Irumu. Cette école fonctionne difficilement. Elle encadre plus de 400 élèves mais fonctionne dans des bâtiments non viables. Les activités scolaires ont repris dans cet établissement scolaire après sa délocalisation suite aux exactions des rebelles ADF dans cette entité. Le directeur de l'école primaire Balingina lance un appel au gouvernement pour la réhabilitation de cette école détruite par l'ennemi. Depuis Bounia, un reportage de Ezekiel Mouzalia.
L'école primaire Balingina avait été délocalisée l'année dernière à Mangiva à cause des exactions des groupes armés locaux et des rebelles des ADF dans la partie sud du territoire d'Irumu. Toutes les fournitures scolaires et du matériel didactique avaient été détruites ou saccagées par des miliciens, contraignant de nombreux parents à abandonner leur milieu. Selon le directeur de cet établissement, plus de 400 élèves, dont 160 filles, étudient dans de mauvaises conditions. Certains suivent les cours assis à même les sols, d'autres sur des sièges faits à base de sticks d'arbres. Ces élèves sont obligés de suspendre les cours pendant la pluie ou déménagent dans une église de la place ou des habitations des autochtones. Georges Kaloumé, directeur des études, lance un appel pathétique.
Ce qu'on utilisait, tout est perdu. Tout rattrape encore de zéro. On est en train de faire l'enseignement à cascade parce qu'il n'y a pas de matériel. Le degré élémentaire fonctionne dans l'église, degré moyen dans l'hangar et degré terminal dans une salle de paille. Ce que je vais demander aux autorités est de nous aider d'abord à faire la construction.
L'administrateur du territoire d'Irumu promet de faire les plaidoyers au gouvernement provincial ainsi qu'aux partenaires dans le domaine de l'éducation. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide, affirmation hier d'un comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. Ce comité considère que les conditions imposées aux Palestiniens sur place mettent leur vie en danger intentionnellement. C'est le cas notamment pour les infrastructures en eau potable. Il y a quelques mois, Oxfam tirait déjà la sonnette d'alarme dans un rapport. Israël utiliserait l'eau potable, ou plutôt le manque d'eau, comme une arme de guerre.
L'invité.
Plus de 2,5 milliards de dollars, c'est le montant que le Fonds monétaire international compte décaisser en faveur de la RDC dans le cadre de deux nouveaux programmes conclus en vue de relancer et diversifier l'économie congolaise et de protéger l'environnement du pays. Ce programme viendra accroître davantage la dette publique de la RDC, estime l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Pour lui, le FMI accompagne le sous-développement de la RDC. Augustin Matata Ponyo est l'invité de ce journal. Il est interrogé par Michel Kifin d'Angol.
Augustin Matata Ponyo, bonjour.
Bonjour.
Vous affirmez que le Fonds monétaire international accompagne le sous-développement en Afrique et en RDC. Qu'est-ce qui motive votre thèse?
Je pars des statistiques internationales qui indiquent qu'entre 2016 et 2024, le niveau de pauvreté s'est accru dans ce pays. Alors que j'étais Premier ministre, entre 2012 et 2016, les taux de pauvreté étaient de 61%. Aujourd'hui, les taux de pauvreté entre 2021 et 2024 est de 83,3%. Au cours de cette période, le pays est en programme avec le Fonds monétaire international. Ça veut dire que les FMI accompagnent la RDC dans l'accroissement de la pauvreté. Deuxièmement, le Fonds monétaire, l'une de ses missions, c'est la stabilisation des cadres macroéconomiques. Et nous avons là deux indicateurs clés, le taux d'inflation et le taux d'échange. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne le taux d'inflation. Quand j'étais aux affaires, sans programme du FMI, la moyenne annuelle était de 3,9%. Aujourd'hui, la moyenne est de 16,8%. Ça, c'est dramatique. C'est que le FMI accompagne la RDC dans l'inflation.
Mais en même temps, ce n'est pas le FMI qui gouverne la RDC. Dites-nous très concrètement, comment le FMI a accompagné le sous-développement entre 2021 et 2024 en RDC, alors qu'on sait qu'il a plutôt apporté des capitaux au pays pour son développement?
Je suis tout à fait d'accord avec vous que le Fonds monétaire ne gère pas les pays. Mais le problème, c'est que le Fonds monétaire est une institution qui recommande la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que le Fonds monétaire ne suit plus ce qu'on appelle les BAB de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Le FMI est complaisant à telle enseigne que le peuple congolais aujourd'hui soutient la complicité du Fonds monétaire international dans la mauvaise gouvernance. Je vous donne un exemple. Entre 2021 et 2024, le Fonds monétaire a décaissé près de 2 milliards 200 millions de dollars américains. La Banque mondiale, 750 millions de dollars. La BAD, près de 228 millions de dollars américains. Mais de ce montant qui fait un total de 3 milliards 200 millions de dollars américains, au minimum 1 milliard 500 millions de dollars ont été détournés.
Et quelles sont les conséquences immédiates de la coopération entre le FMI et la RDC sur le développement du pays?
Ben écoutez, si nous suivons la logique de mon raisonnement depuis le début de cette interview, nous pouvons dire que le Fonds monétaire contribue à l'endettement excessif dans ce pays. Et ça, c'est dramatique, parce que quelques années plus tard, ce sera le même Fonds monétaire international qui va qualifier la RDC d'un pays pauvre, très endetté. Les fonds qui sont donnés par la Banque mondiale, qui sont donnés par la BAD, qui sont donnés par le Fonds monétaire international, c'est la dette extérieure. En moins de 6 ans, la dette publique de la RDC a doublé. Et là-dedans, vous y trouvez près de 7 milliards de dettes extérieures. Mais c'est dramatique.
N'êtes-vous pas là en train de pousser un cri de frustration parce que lorsque vous étiez ministre de Finances, puis Premier ministre, vous n'aviez jamais réussi à obtenir un programme économique avec le FMI?
Monsieur Michel, laissez-moi vous dire, c'était en 2010, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement. Tous les critères conjoncturels, quantitatifs, ont été respectés. Vous savez que le Fonds monétaire a refusé de conclure le programme du fait que dans la périphérie, dans le pays, l'entreprise publique a accompli un acte de mauvaise gouvernance. Mais qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui, Michel? C'est que les critères quantitatifs ne sont jamais respectés totalement. Détournement, corruption. Mais le Fonds monétaire, c'est complet à pouvoir conclure des revues. Suis-je frustré? Évidemment, je dois être frustré du fait que le Fonds monétaire, ce n'est plus le même Fonds monétaire. Il y a deux poids, deux mesures. Le Fonds monétaire voulait conclure le programme avec moi quand j'étais Premier ministre. Mais je refusais parce que j'estimais que sans le Fonds monétaire, nous réalisions les meilleures performances socio-économiques que la RDC n'a jamais réalisées depuis 1960.
Augustin Matatampogno, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ce journal arrive à sa fin. Il a été mis en onde par Polydor Basunga, coordonné et supervisé par Pelé Kipela dans une présentation de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci à vous tous de nous avoir suivis.